Vous écoutez France Culture.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h, une émission préparée par Céline Leclerc, Mélanie Chalandon, Fanny Richer, Mina Fézy, réalisée par Jean-Christophe Francis, à la prise de son, Élise Le. Si tout va bien, voilà un projet de loi qui devrait aller à son terme d'ici la fin de l'année, celui sur l'autonomie des personnes âgées. Jean-Marc Ayrault était à Angers aujourd'hui pour en présenter les grandes lignes, même s'il faudra attendre début avril pour en connaître toutes les modalités. L'allocation personnalisée d'autonomie devrait ainsi être revalorisée à hauteur de 375 millions d'euros, histoire de permettre aux personnes les plus dépendantes de bénéficier de davantage d'heures d'aide à domicile. Car c'est bien l'objectif qui est visé par la future loi, faire du maintien à domicile la priorité des priorités, pour reprendre les mots du Premier ministre. Objectif louable, sans doute, mais qui ne saurait être atteint par la seule voie d'une revalorisation de l'APA. Maintenir les plus vieux d'entre nous chez eux suppose aussi, et peut-être avant tout, de leur proposer un cadre de vie qui leur permette d'être autonomes le plus longtemps possible, logements adaptés, transports facilités, services publics accessibles, exercice de la citoyenneté encouragée. Les chantiers ne manquent pas. Et le défi est de taille pour nos sociétés. Dans moins d'un demi-siècle, les plus de 85 ans seront 5 millions en France. 5 millions, c'est-à-dire 4 fois plus qu'aujourd'hui. Les plus de 60 ans représenteront un tiers de la population. Alors comment répondre à cet inéluctable vieillissement en excluant le moins possible? Nos villes sauront-elles s'adapter à nos vieux? C'est notre sujet du jour. J'ai le plaisir de recevoir trois invités pour en discuter. Martine Pinville, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes députée socialiste de la Charente, auteur d'un rapport intitulé « Relever le défi politique de l'avancée en âge » que vous avez remis au Premier ministre en mars dernier. Vous êtes allé voir ce qui se passe ailleurs dans un certain nombre de pays. Vous étiez d'ailleurs présente aujourd'hui à Angers aux côtés de Jean-Marc Ayrault qui présentait donc ce projet de loi. Pour discuter avec vous ce soir, Marie-Yvonne Yazid, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes adjointe du défenseur des droits en charge de la lutte contre les discriminations et pour la promotion de l'égalité. Vous étiez auparavant vice-présidente de la HALDE. Vous aviez publié un article qui nous a beaucoup servi, c'était déjà en 2005. Le vieillissement pose-t-il la question du droit? Ce sera justement une des questions que nous poserons ce soir. Puis notre troisième invité, Pierre-Marie Chapon, bonsoir.
Bonsoir.
Géographe spécialiste des enjeux territoriaux face au vieillissement. Vous avez été nommé en 2012 référent pour la France par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, pour le programme Villes et communautés amies des aînés. Vous avez publié la documentation française en 2013, l'an dernier, donc Bâtir une ville pour tous les âges. Alors avant que d'entamer véritablement la discussion, je voudrais avoir votre appréciation assez brève, si vous le pouvez, appréciation générale de ce que propose peut-être le territoire français par rapport à sa population la plus âgée. Est-ce que votre appréciation générale serait, Martine Pinville, que le cadre de vie est plutôt satisfaisant pour les plus âgés ou bien est-ce que c'est plutôt dans l'insatisfaction, il y a énormément de progrès à faire?
Alors je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de progrès à faire parce que jusqu'à présent, je dirais, on a plutôt envisagé ou pensé le vieillissement en termes de dépendance ou de perte d'autonomie. Or en fait, l'enjeu, il est tout autre. Il est effectivement, et ce que disait le Premier ministre aujourd'hui, d'adapter la société au vieillissement pour permettre aux personnes de rester chez elles, puisqu'on sait qu'une grosse majorité de personnes, plutôt 80-90% de personnes, souhaitent rester à domicile. Comment est-ce qu'on va pouvoir mieux les accompagner à domicile? Tel est l'enjeu.
Marie-Yvonne Yazid et Pierre-Marie Chapon, vous partagez ce premier diagnostic?
Tout à fait. À toutes les étapes de la vie, et en particulier quand l'âge avance, souvent les droits sont un petit peu malmenés, et que ce soit sur les questions du logement, de l'assurance, du crédit, toutes ces questions, c'est dans le quotidien des gens. J'aurai plusieurs exemples tout à l'heure pour dire comment la lutte contre la discrimination peut venir soutenir les citoyens qui avancent en âge.
Pierre-Marie Chapon.
Oui, le vieillissement, c'est un petit peu à part. C'est-à-dire que
les gens ont peur de vieillir, n'ont pas envie de vieillir. Je pense que personne parmi vos auditeurs vont dire « Ouais, demain, je vais être une personne âgée. » Donc du coup, c'est très difficile de s'imaginer, de progresser et de faire en sorte que les personnes s'acculturent en fait la question du vieillissement et de manière positive. On a encore un problème qui s'appelle l'âgisme en France sur lequel il faut se battre à la fois de manière générale pour l'ensemble de la population, mais également auprès des personnes âgées actuellement qui quelque part reçoivent ces messages négatifs et donc se sentent ont une image d'elles-mêmes négative.
Alors pour essayer justement d'imaginer des changements plus positifs, Pierre-Marie Chapon, il faut peut-être essayer de comprendre ce à quoi sont confrontés aujourd'hui les personnes âgées dans leur cadre de vie, même si on va voir assez vite que tout dépend aussi du cadre dans lequel elles évoluent. Mais sont quoi les principales difficultés ? Est-ce que sont d'abord des obstacles physiques, un problème d'aménagement du logement ? C'est quoi le logement et les transports ? On peut dire que c'est les deux principaux problèmes auxquels sont confrontées les personnes âgées.
Disons que c'est toute la chaîne de déplacement, on pourrait dire, de la chaîne de déplacement de la douche jusqu'à l'échelle de la ville. Et il faut qu'on soit cohérent entre une politique de logement, on en reparlera peut-être tout à l'heure sur une politique de logement adapté. Si l'environnement géographique autour de ce logement n'est pas lui-même adapté, avec des choses toutes simples comme la présence de bancs, les trottoirs larges, tout un tas d'éléments qui vont permettre à la personne de sortir et de se rendre par exemple dans les commerces ou dans les espaces verts, on n'a pas répondu aux besoins. Il faut savoir que le rayon moyen d'une personne âgée en ville, c'est 300 mètres environ. Donc il faut que dans ce rayon de 300 mètres, on puisse lui donner tous les éléments qui lui permettent de sortir de chez elle.
Martine Pinville.
Et puis il y a, je crois, pour compléter ce que dit Pierre-Marie Chapon, une autre organisation de la famille. Parce qu'il y a quelques années, les personnes âgées restaient plutôt près de leur famille, près de leurs enfants ou de leurs petits-enfants, et ça permettait une organisation familiale. Or, l'évolution de la famille, l'évolution de la société fait qu'effectivement, il y a des mutations, il y a des enfants qui sont loin de leurs parents ou de leurs grands-parents. Donc il y a nécessité à la société de s'organiser pour accompagner ces personnes qui quelquefois vivent à deux, mais quelquefois peuvent vivre seules pendant quelques années, un certain temps.
Et cette organisation, ça peut passer par des choses toutes bêtes. Pierre-Marie Chapon disait par exemple installer des bancs. Ça, on n'y pense pas forcément quand on n'est capable de marcher longtemps, mais c'est ce genre d'aménagement qui peut être intéressant, qui ne coûte pas forcément très cher d'ailleurs.
Et effectivement, c'est en termes d'aménagement, mais on va sans doute y revenir, ça va être l'aménagement du logement, l'aménagement du quartier ou du village, et plus globalement, l'aménagement de l'urbanisme et de la ville. Comment est-ce qu'une personne, mais ça vaut pour une personne âgée, mais ça vaut pour une personne seule qui n'a pas de moyens de déplacement, je dirais que ça vaut à tous les âges de la vie, comment est-ce qu'on peut rester dans son quartier, mieux habiter sa ville.
Alors là, on est sur la question des obstacles physiques et de la façon de les surmonter, mais il y a aussi des obstacles plus symboliques. Marie-Yvonne Yazid, des obstacles politiques, c'est-à-dire comment aussi on arrive à maintenir ces personnes dans la société, le fait qu'elles aient continué à avoir une vie de citoyenne, en fait, comme les autres.
Alors, je pense que justement, il faut réaffirmer que toute personne est citoyenne jusqu'au bout de sa propre vie et qu'à partir de là, la citoyenneté, c'est pouvoir accéder à toute une série de droits fondamentaux comme le droit au logement, le droit à la santé, le droit à mener une vie digne avec des ressources d'un certain niveau. C'est le droit aussi de pouvoir exercer ses liens familiaux et là, je pense notamment le rôle des grands-parents à l'égard de leurs petits-enfants. Et dès que le défenseur des droits, Dominique Baudis, a été installé en mai 2011, il a vraiment pris conscience, et moi auprès de lui, puisque vous avez rappelé que j'ai fait un article sur ces questions en 2005, nous avons constaté que tous les moyens d'action qu'avait le défenseur des droits permettaient justement d'aborder cette question de l'avancée en âge sous des prismes qui recouvrent, je dirais, tous les problèmes de la vie quotidienne. Alors, peut-être trois petits exemples à trois étapes différentes de la vie, parce que certes, âgé, c'est peut-être des situations de perte d'autonomie et de dépendance, mais il faut aussi percevoir que dans notre société française actuellement, c'est dès 45-50 ans que dans certains milieux professionnels, on considère que les personnes sont âgées. Et nous avons eu déjà des saisines de, au nom de la lutte contre la discrimination, donc une des missions du défenseur des droits, sur ce champ. Ensuite, on constate, et notamment sur sa deuxième mission, qui est le dysfonctionnement des services publics, que lorsque l'exercice professionnel s'arrête et qu'on veut liquider des pensions, là aussi, parce que les vies sont à l'heure actuelle plus hachées, plus heurtées, on change de région, on a pu connaître des périodes de chômage, de temps partiel, là aussi, cette revendication d'un niveau de ressources digne, eh bien, il se pose et... Un seul chiffre, c'est un tiers des dossiers que nous recevons dans notre pôle de protection sociale qui est consacré à cela.
Alors on parle de la question du logement, Maryvonne Liazid. Est-ce qu'on pourrait imaginer, de la même manière qu'il y a aujourd'hui un droit au logement opposable, d'avoir un droit au logement opposable qui ferait en sorte qu'on pourrait se retourner par exemple contre le propriétaire d'un logement en l'obligeant à adapter le logement à sa situation de perte d'autonomie. Est-ce que ça peut faire partie des revendications et justement de l'adaptation de la société au vieillissement de sa population ?
Alors, le défenseur des droits défend une position qui a aussi été défendue par la Commission nationale consultative des droits de l'homme, de dire que c'est les droits fondamentaux à toutes les étapes de la vie, et il y a déjà la question du droit au logement.
Donc déjà, pas de droit spécifique pour les plus vieux.
Pas de droit spécifique, mais déjà, si on rendait le droit au logement, je voudrais vous signaler à ce stade un petit fait de société que nous sentons. Nous sentons à l'heure actuelle, nous le sentons parce que nous avons des saisines de personnes, que dès 62-63 ans, il y a des propriétaires qui craignent de louer leurs biens parce qu'ils se disent qu'à l'échéance de 70 ans, ils auront peut-être difficulté à dénoncer le bail. Et là, par exemple, nous avons un couple que nous avons accompagné par une transaction civile qui s'était vu refuser un bail et à droit existant, nous leur avons obtenu une indemnité de 21 000 euros.
Pierre-Marie Chapon.
Oui, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat avait évalué qu'il fallait adapter 2 millions de logements en France, ce qui représente, donc pour les besoins des personnes âgées fragiles, ce qui représente 24 milliards d'euros d'investissement. Donc on est sur des chiffres qui sont extrêmement importants. Et la question, alors peut-être pour répondre de manière différente à ce sujet, c'est la question qui paye l'adaptation de ces logements. Et faut-il systématiquement adapter les logements ? Ne faut-il pas aussi proposer d'autres alternatives quand c'est très difficile à adapter ou très cher ? Parce qu'une adaptation d'un logement, c'est en moyenne 5-6 000 euros. Ça peut être beaucoup plus quand on est sur de l'ancien, particulièrement si c'est de l'ancien classé. Et ça peut être un petit peu moins pour certains types d'immeubles.
Donc... Sachant qu'il y a deux tiers des personnes, enfin des ménages âgés, qui habitent une commune rurale ou périurbaine. Ouais. C'est-à-dire là, c'est vrai qu'on a pris le terme de ville pour caractériser la problématique de ce soir, mais c'est vraiment à entendre la ville au sens très large. Finalement, c'est le cadre de vie, c'est les territoires qui sont importants et les coûts ne sont pas les mêmes et les besoins en infrastructure, en adaptation ne sont pas les mêmes selon qu'on se trouve dans une commune rurale, dans une commune de la périurbanité et en centre-ville.
Exactement. L'enjeu d'ailleurs de demain, c'est le périurbain, puisque la part du périurbain va nettement progresser dans les prochaines années. Et comment est-ce qu'on va offrir à cette population qui va vouloir rester en périurbain ? Parce que ça, c'est très important. On parle souvent du retour en centre-ville. Le retour en centre-ville n'est pas une réalité qu'on mesure. Les gens qui ont habité 40 ans en banlieue vont vouloir rester en banlieue. Par contre...
Donc la France qui vieillit, c'est plutôt la France pavillonnaire, si
c'est
on peut
la
être
France,
un
mais
peu...
Mais attention, le rural continue de vieillir et l'urbain également. Par contre, ce périurbain, comment est-ce qu'on fait en sorte justement qu'il continue à accueillir en fait ces personnes. Du coup, l'idée, c'est peut-être de proposer de centralité, c'est-à-dire dans les centres-bourgs, de créer des logements adaptés, d'offrir en fait une alternative aux pavillons, ce qui permet de libérer les pavillons pour des populations plus jeunes qui vont pouvoir s'y installer, tout en maintenant en fait la population vieillissante dans ces territoires auxquels elles sont attachées.
Martine Pinville, est-ce qu'on a raison de poser, est-ce que le Premier ministre a raison de poser comme postulat de base absolue, la priorité des priorités, c'est le maintien à domicile? Parce qu'on voit bien que quand on choisit cette voie-là, ça entraîne tout un tas d'adaptations nécessaires avec ce que disait Pierre-Marie Chapon, c'est-à-dire une France vieille, si j'ose dire, avec plein de guillemets autour, mais qui vit surtout, en tout cas en majorité, dans le périurbain. Ça suppose énormément de moyens, énormément de travaux d'aménagement. Et donc forcément, ça pose la question du coût.
Ce que dit le Premier ministre, je crois, c'est quand même vraiment le respect du choix de la personne. C'est-à-dire une personne qui vieillit, qui souhaite vieillir à domicile, comment est-ce qu'on peut mieux l'accompagner? En ayant bien évidemment
conscience... Il y a quand même la priorité des priorités, c'est le maintien à domicile, donc il y a un peu presque une forme d'injonction.
Non, je ne crois pas, c'est parce qu'on sait quand même que 80 à 90% des personnes souhaitent rester à domicile. Donc comment vraiment on les accompagne? Comment est-ce qu'on adapte le logement? Comment par des petits aménagements? Il n'y a pas toujours besoin d'aménagements extrêmement importants et extrêmement coûteux. Sauf qu'il faut, arriver à l'organiser avec les structures, avec l'ANA, avec ceux qui peuvent travailler autour, avec certains artisans qui peuvent être formés. Mais il faut vraiment adapter ces logements. Certes, il y a quelquefois, vous le disiez tout à l'heure, des logements qui sont trop grands quand une personne est seule, qu'elle a un certain âge. Donc il faut imaginer là d'autres dispositifs, peut-être des logements plus petit dans un environnement très proche.
Parce que l'idée des logements intermédiaires, par exemple, c'est-à-dire entre le domicile d'origine et puis la maison de retraite, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Des logements intermédiaires, mais qui sont dans un quartier proche de la personne. C'est essentiel. Les personnes souhaitent rester dans leur environnement. Peut-être pas toujours à domicile, parce qu'elles peuvent avoir conscience, en fait, du fait que leur logement est trop grand, mais c'est surtout dans le même environnement.
Il faut respecter à tout prix le souhait des personnes lorsqu'elles veulent... être maintenu à domicile, Marie-Yvonne Liazid ?
Je pense que cette orientation vers le soutien au choix des personnes et lorsqu'elles veulent rester à domicile, il y a déjà une bonne dizaine d'années que notre pays a pris ce chemin et il y a beaucoup de bailleurs publics et privés qui ont réfléchi des adaptations. Le monde de l'artisanat l'a aussi réfléchi.
Sauf que si les adaptations ne suivent pas complètement, ça peut aussi créer de l'isolement pour ces personnes. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément plus intégré dans la société quand on est maintenu à domicile que quand on se trouve résident d'une maison de retraite.
Oui, absolument. Il faut que les personnes qui ont des pertes d'autonomie soient bien accompagnées pour que elles réalisent vraiment le choix qui correspond à leur envie de vivre à un moment donné. Et il faut que tous les acteurs qui tournent autour de cette personne se mettent en concertation. Je peux vous donner là aussi un exemple. Allez-y. Qui est tout à fait intéressant. Une personne de plus de 75 ans qui lit dans la brochure de sa caisse de retraite complémentaire qu'elle peut être bénéficiaire d'un prêt pour justement adapter son logement. Cette personne, elle a la vision tout à fait active de sa propre vie. Donc, elle se dit « je vais demander ce prêt ». Elle le demande, c'est une somme extrêmement modique parce qu'elle avait une adaptation précise en tête. On le lui refuse. Pourquoi on le lui refuse? C'est parce qu'à partir de 75 ans, il n'y a pas d'assurance collective du prêt. Le défenseur des droits s'est saisi de cette question et il a pu faire évoluer, et notamment pour qu'il y ait une assurance individuelle. Donc je dirais, moi, ce à quoi j'appelle, c'est à ce partenariat des acteurs pour qu'on lève les freins à chacun de nos responsabilités, on lève les différents freins. Et c'est possible, et c'est effectivement accompagner le choix des personnes.
Martine Pinville.
Et là, on peut parler de prévention de la perte d'autonomie. Et en fait, c'est extrêmement important, et c'est ce que j'espère, enfin, c'est ce qu'on peut penser qui sera dans la loi. Comment est-ce qu'on anticipe mieux et comment on aide ces personnes à rester dans leur domicile? Et il y a pour ce faire...
Donc, c'est moins de faire une loi pour gérer la dépendance que pour en reculer l'échéance, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Mais c'est pour ça qu'on parle d'adaptation de la société au vieillissement. Et quand on parle de prévention, il y a des acteurs différents, les caisses vieillesse, les mutuelles santé, les conseils généraux, qui mènent des actions pour effectivement prévenir l'isolement dans certains cas, et puis aider ces personnes à mieux vivre chez elles. Mais sauf que ces actions, elles sont souvent disparates, elles sont menées chacun dans son domaine, chacun dans son cercle, je dirais. Et comment on les organise mieux ? Et il est prévu, notamment dans la loi, ce qu'on appelle une conférence des financeurs qui seront représentés et qui vont pouvoir mettre en cohérence cette politique de prévention auprès des personnes sur un territoire donné.
Alors il y a la question de la coordination politique et la question aussi de l'aménagement du territoire, puisque nous avons un géographe avec vous, Pierre-Marie Chapon. Vous avez établi dans un des rapports que vous avez rendu sur le sujet une sorte de typologie de l'environnement favorable au vieillissement. Alors je reprends cette typologie. Il faut qu'il y ait des commerces dans un rayon de 300 mètres, des arrêts de transport en commun à moins de 150 mètres, des espaces verts, des bancs sur les cheminements. Il y a sans doute d'autres éléments importants à prendre en compte. Mais est-ce que toute cette typologie-là ne plaide pas en faveur d'un regroupement des personnes les plus âgées vers les centres-villes qui sont peut-être les mieux à même de proposer justement un cadre de vie adapté au vieillissement ?
Alors, pas centre-ville nécessairement. Centre-ville, centre de quartier, centre-bourg. C'est pour ça que tout à l'heure, ce que je disais sur le périurbain, on peut aider les gens à rester dans un territoire périurbain, mais simplement en leur proposant une alternative qui se situe dans le centre-bourg, qui va retrouver sa capacité à attirer des commerces, à se refédérer finalement autour d'une offre de logements adaptés et de services adaptés. Est-ce qu'on peut aussi imaginer qu'une maison médicale soit installée ? Donc finalement, d'un territoire défavorable, on peut en constituer quelque chose d'assez favorable.
Et ça ne revient pas à créer des quartiers de vieux, en fait ?
Alors non, justement, parce que, et je vais vous citer l'exemple de Rennes Métropole. Rennes n'est pas une ville qui est réputée pour faire des ghettos. Donc je pense que leur approche est plus, au contraire, une approche de développement durable au sens très large du terme. Ils ont effectué cette cartographie dans leur document d'urbanisme. C'est déjà appliqué dans certaines ZAC, donc zones d'aménagement concertées qui sont mises en place. L'idée, c'est très simple, c'est de partir d'un pragmatisme, de se dire on a des zones dans lesquelles on a des personnes qui vieillissent, mais ces zones, ils sont favorables à ce vieillissement. Donc, il ne faut surtout pas que les personnes, elles quittent leur domicile dans ces territoires, puisqu'ils sont favorables pour eux. Donc, il faut qu'on mette les moyens à la fois pour les aider à adapter leur logement. Donc, on va plutôt pousser ces adaptations-là plutôt que d'autres. Et puis, on va, de manière préférentielle, adapter l'environnement urbain dans ces zones également.
Et qu'est-ce qu'on fait des environnements urbains qui seraient plutôt adaptés, mais qui ne sont pas énormément occupés par les populations vieillissantes. Je pense par exemple à la question des maisons de retraite. Les maisons de retraite, elles sont très souvent dans des zones assez excentrées. Est-ce qu'il ne faudrait pas essayer de les remettre un peu en centre-ville ou en tout cas dans ces quartiers-là ?
Je pense que là, on partage tous les trois cette analyse. Il faut savoir que ça remonte au 19e siècle. Quand on a, et c'était d'ailleurs lié en partie à justement ce que je disais tout à l'heure sur l'agisme, c'est-à-dire que quelque part, cachez-nous ces vieux, hein, on peut le dire comme ça, ça leur fera du bien de prendre l'air. Et on était sur des thématiques soit officiellement hygiénistes en disant effectivement ils vont pouvoir prendre l'air et se reposer, alors que ce n'est pas du tout quelque chose qui est recherché. Ce n'est pas quelque chose qui est recherché pour plusieurs raisons. D'une part, on a les personnes qui vivent en maison de retraite, la seule chose qui les maintient justement dans la ville, c'est la fenêtre sur tout ce qui se passe dans la rue. Donc si vous enlevez cet élément, c'est quelque chose de grave. Deuxième élément, ces personnes, il ne faut pas oublier qu'elles avaient un tissu social. Elles avaient des voisins, elles avaient des amis, des voisins qui peuvent avoir le même âge que ces personnes. Si on n'a pas de transport en commun qui permet de rejoindre ces maisons de retraite, une maison de retraite sur quatre en France n'est pas desservie par les transports en commun. Donc ça pose un problème. Et puis ça pose un troisième problème, c'est le personnel. C'est-à-dire que plus vous faites des maisons de retraite qui sont loin, plus il est difficile de trouver le personnel. Donc il est très important important de remettre la maison de retraite en ville. Il est très, enfin, dans les villes et centres-bourgs, il est très important de lui donner une place dans le parcours de vie. C'est-à-dire que la loi autonomie qui est actuellement lancée n'a pas vocation à critiquer les maisons de retraite. Les maisons de retraite médicalisées ont tout à fait leur place. Simplement, il est important de faire le maillage complémentaire qui manque finalement entre des logements classiques qui ne sont pas adaptés et les maisons de retraite médicalisées. Construisons un parcours de vie cohérent entre ces différentes structures.
Marie-Von Yazid.
Oui, et il y a d'ores et déjà des initiatives qui montrent la voie de ces maillages de territoire où on peut avoir les différentes natures de réponse entre le foyer logement, des appartements adaptés, disséminés et des maisons de retraite. Et tout ça plaide pour que, justement, on aborde les questions cette question en soutenant les personnes sur leur libre choix et en réfléchissant quel va être leur statut de locataire par rapport à cela, leur statut aussi de consommateur de services, parce que dans la maison de retraite, elles doivent pouvoir aussi continuer à consommer du service de coiffure, d'esthéticienne, etc. Et puis, justement, de faire en sorte que on puisse aménager ses parcours de vie et que la personne, elle sente que ses droits sont respectés dans ses différents parcours de vie, de même manière que si elle est à domicile, dans un foyer logement ou dans une maison de retraite. Et nous avons pris une recommandation générale sur les établissements d'accueil des personnes âgées dépendantes, justement sur cette question d'anticiper les ruptures, de faire en sorte d'accompagner le consentement des personnes. Et c'est très articulé, comme le disait Pierre-Marie, avec ces réflexions, je dirais, d'aménagement urbanistique et d'aménagement coordonnées que peuvent initier les collectivités et les gestionnaires d'établissements.
Alors à propos de ces aménagements urbanistiques, on a cité le cas de Rennes Métropole, qui fait plutôt partie des villes exemplaires en France. Vous, Martine Napinville, vous êtes aussi allé voir ailleurs ce qui se passe pour essayer de prendre quelques exemples vertueux. Et il y a notamment, alors moi ce qui m'a marqué, c'est manifestement le Danemark et la ville de Copenhague, qui serait la ville où il fait bon vieillir. Je ne sais pas si c'est celle qui a le plus retenu votre attention dans ce document et dans ce rapport que vous avez remis au Premier ministre. Mais en tout cas, est-ce qu'il y a des exemples à l'étranger qui vous paraissent particulièrement intéressants à importer chez nous ?
Ah oui, alors j'ai vraiment trouvé, alors peut-être pas, j'ai trouvé des exemples et des actions qui étaient menées particulièrement intéressantes. Moi, je vais revenir sur ce que j'ai pu voir, puisque je suis allée à Stockholm, je suis allée au Québec et je suis allée à Madrid. Et ce que j'ai par exemple vu à Stockholm, ce sont... vu des exemples concrets, des médiateurs. C'est-à-dire des médiateurs, c'est-à-dire une personne qui vient, qui va, pour permettre à une personne plutôt âgée de rester à domicile, qui vient lui faire des petits services. C'est-à-dire qu'elle vient changer une ampoule, elle vient remettre un rideau, elle vient parce qu'on sait qu'une personne âgée a une possibilité de chute extrêmement importante. Et que c'est souvent, quand il y a des chutes, c'est souvent le début de la perte d'autonomie.
Comment... Donc c'est quoi ? C'est l'organisation d'un
c'est
bon
l'organisation,
voisinage ?
C'est l'organisation. Tout à l'heure, je parlais de politique jeunesse. Là, dans une politique liée au vieillissement, eh bien on met à disposition d'une personne âgée avec certains critères, une personne qui peut venir l'aider sur des petits travaux.
Et en fait, c'est une personne qui est quoi ? Qui est bénévole ? Qui est
rémunérée
pour ça ?
Ah non, c'est une personne qui est rémunérée pour venir faire ces menus services ou menus travaux pour éviter que cette personne ait des difficultés ou une chute ou parce qu'elle se retrouve seule ou parce qu'elle n'a plus capacité à les faire. Et c'est extrêmement intéressant parce que, effectivement, ça permet de vivre à domicile. Une personne seule de 70 ans, 75 ans ou même 80 ans, si elle doit changer une ampoule, monter sur un escabeau ou si elle doit faire certains travaux chez elle, ne va pas les faire et ne peut quelquefois ne pas avoir les moyens. Donc, c'était une action politique publique extrêmement intéressante. Ce que j'ai pu voir à Madrid, par exemple, c'est les maisons de l'autonomie. C'est une maison où, en fait, on allait trouver toutes les actions. Une personne qui a besoin de trouver un temps de répit, qui a besoin de certains travaux, qui a besoin d'un logement ou d'être accueillie en établissement, eh bien, elle va dans ce lieu et là, elle peut y trouver toutes les réponses.
Pierre-Marie Chapon, vous avez d'autres exemples. Oui, je ne sais pas si je tente un retour vers le Danemark et vers Copenhague.
Je comptais aller un petit peu plus loin, en fait. Je comptais aller aux États-Unis.
Ah bah, allons aux États-Unis. Avec le Village Movement, par exemple.
Oui, alors il y a ces systèmes qui sont mis en place, puisque donc aux États-Unis, vous avez une ville éclatée qui est extrêmement forte. Hein, et la plupart des Américains habitent aujourd'hui en lotissement. Je voulais citer plutôt l'exemple très récent, puisque je l'ai lu aujourd'hui, de la chaîne de magasins Walmart, qui est le plus important, la plus importante chaîne d'hypermarché aux États-Unis, qui a lancé en fait des bons de réduction pour les personnes qui font leurs courses pour leurs voisins. C'est-à-dire que quand on a des voisins âgés, eh bien Walmart veut favoriser en fait ces échanges entre les différents voisins. Et dès lors que des personnes vont faire leurs courses pour le bien d'une autre personne qui ne peut pas forcément se déplacer, eh bien elle va recevoir un bon de réduction. Je trouvais que c'était une approche extrêmement intéressante. Et sur les Village Network, effectivement, on avait visité plusieurs quand on avait fait le rapport avec le centre d'analyse stratégique.
Ce que c'est, hein, d'ailleurs, c'est vrai que quand on parle d'aménagement pour les personnes âgées aux États-Unis, il y a forcément une image qui nous arrive tout de suite. Ce seront ces fameux lotissements gardés, voilà, où il n'y a que des vieux qui vivent entre eux et qui ne sont pas du tout insérés dans la société.
Justement, c'est pour ça qu'il faut casser cette image américaine. C'est une réalité, mais les États-Unis, c'est plusieurs réalités parfois opposées. Effectivement, on a les Sun City qui sont des villes de 35 000 à 40 000 personnes âgées qui font ce choix. C'est un choix, donc je ne veux pas rentrer dans le débat aujourd'hui. Par contre, on retrouve aussi des gens qui vivent en lotissement et qui se disent, finalement, on va créer une association, c'est les fameux Village Network, une association qui va tout simplement nous permettre de continuer à vivre dans notre logement, parce que la communauté, et ça c'est très important au sens positif du terme aux États-Unis, va m'aider. C'est-à-dire qu'une personne, par exemple, qui pendant toute sa vie qui a conduit, qui est chauffeur, qui peut encore conduire, et bien cette personne va être un petit peu en charge d'accompagner les autres voisins qui ont besoin, par exemple, d'aller à la messe ou d'aller faire des courses. En échange de quoi, il sera aidé par un autre voisin qui peut encore changer les ampoules ou qui peut mener différentes choses. Donc en fait, ils s'unissent ensemble, ils mettent en place, il y a un coordinateur qui était un salarié, qui permet de suivre un petit peu les choses. Et on a aujourd'hui beaucoup de Village Network qui sont développés, et avec quelques-uns même en Europe, aux Pays-Bas, qui sont complètement sur cette lancée américaine.
Marie-Vonne Yazid.
Alors, Martine Pinville et Pierre-Marie Chapon ont développé toute cette question de la médiation à l'égard de services, les courses, etc. Moi, je voudrais aussi indiquer que beaucoup de personnes qui avancent en âge ont besoin d'intermédiation dans tout ce qui est leur démarche avec les services publics. Et donc, là aussi, beaucoup de réalisations ont été faites. Il y a des conciliateurs dans un certain nombre d'organismes, des
médiateurs.
D'autant
que ce sont souvent des services qui sont de plus en plus dématérialisés.
Absolument.
Et qu'accéder à Internet, c'est pas forcément rendre les choses plus simples pour toute la population.
C'est ce que je voulais indiquer face à la dématérialisation des services, mais il faut tordre le cou aussi au fait que quand on avance en âge, on ne maîtrise pas forcément le numérique. Je pense que là aussi, de plus en plus, les personnes maîtrisent le numérique. Mais très souvent, les personnes ont besoin de se réassurer que ce qu'elles trouvent par la dématérialisation, dans le face-à-face, ça va conforter leur démarche. Et là aussi, le défenseur des droits, il a pris toute sa place avec tous les médiateurs qui existent pour que dans la proximité, parce que c'est ça aussi qui est très important, cette notion de service dans la proximité, que dans la proximité, une personne puisse trouver un lieu, et en quelque sorte, c'est les 450 délégués du défenseur des droits qui sont aussi à leur disposition pour compléter ce besoin de service qu'ont les personnes qui avancent en âge, et ça conforte leur qualité de vie.
Bon, beaucoup de perspectives d'aménagement. Je ne sais pas si on a évoqué la question des passages piétons, par exemple, qui pourraient être surélevés, comme ça existe dans certaines villes, pour éviter d'avoir à descendre du trottoir pour traverser une rue. Ça, voilà, je trouve que c'est partie des petits aménagements qui peuvent être...
Ça, c'est le cas de Copenhague, justement.
Ah bah voyez, on y arrive à Copenhague. Je savais que j'aurais mon exemple danois. Ce que je trouve intéressant, j'ai relevé une phrase de votre rapport, Martine Pinville. Vous dites « Il faut parier sur l'adaptation de la société à tous les âges de la vie, en mettant en avant l'idée que les besoins des plus jeunes peuvent être congruents avec les besoins des plus âgés. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, quand on se pose la question de savoir si nos villes sauront s'adapter à nos vieux, faire une ville avec un cadre de vie de toute manière qui soit agréable pour les jeunes, c'est aussi forcément faire une ville qui soit agréable pour les vieux ?
Bien évidemment, en fait, c'est exactement ce sens-là. Comment on aménage un habitat, un quartier, une ville pour toutes les personnes qui habitent cette ville, que ce soit des enfants, que ce soit des mamans avec des poussettes, que ce soit des actifs qui ont quelquefois des situations, qui ont des béquilles parce qu'elles se sont cassées la jambe ou autre, au ski par exemple, où elles ont besoin de se déplacer, mais que ce soit les personnes qui avancent en âge.
Imaginons, je suis jeune, double effort d'imagination d'ailleurs, et je veux me déplacer en vélo. J'ai besoin de bandes cyclables partout dans l'endroit où je vis. Ça, c'est pas forcément compatible avec une population âgée, parce que les vélos, on le voit par exemple à Paris, c'est quelque chose d'assez dangereux quand on se déplace sur les trottoirs.
Parce qu'ils vont sur les trottoirs, mais faut
arriver.
Parce que
les bandes cyclables sont aussi parfois sur l'espace, qui est un peu un espace partagé.
Mais je crois qu'alors, vous parlez d'espace partagé, mais il faut aussi partager avec toutes les populations et sensibiliser à tous les âges de la vie. Je crois que c'est extrêmement important, parce que ceux qui se déplacent en vélo, ils ont des enfants, ils ont des parents, ils ont des grands-parents souvent. Et donc je crois que le sens est là. Comment on adapte cette société ? Comment une personne qui souhaite rester à domicile, si à un moment elle a des difficultés ou son conjoint a des difficultés, on peut lui proposer un temps de répit, on peut lui proposer un accueil temporaire ou on peut lui proposer d'autres aides. En fait, c'est ça. Comment cette solidarité que l'on a pu connaître dans les familles, en fait, on lui redonne du sens.
C'est tout le principe aussi du programme donc Ville Amie des Aînés, auquel on a 19 villes actuellement, dont deux villes qui sont dans les DOM, donc c'est assez important de le dire, qui sont membres. C'est finalement de faire non pas des villes amies des aînés au sens petit du terme, mais des villes amies des âges. Et en fait, toutes les répercussions des 8 thématiques de la vie quotidienne qui sont traitées dans Ville Amie des Aînés ont des répercussions positives pour l'ensemble de la population. On parlait des bancs tout à l'heure, alors qu'on peut installer des bancs, des fauteuils, des assis debout. Chacun y trouve son utilité. Les bus, quand ils sont pensés d'un point de vue design et que les horaires sont mieux cadencés, mieux expliqués, ils sont valables pour toute la population. Donc c'est pour ça que c'est très important de casser cette image négative du vieillissement et de le voir vraiment comme un élément fédérateur.
On parlait la semaine dernière à propos des bobos de mixité sociale. Là, on pourrait parler de mixité générationnelle. Alors, il y a un certain nombre d'associations qui essaient justement de mettre en place cette mixité générationnelle. Et ce sera notre façon de conclure cette émission. Je voudrais en citer une. C'est Paris Solidaire, qui est une association qui lutte contre l'isolement des personnes âgées en ville et qui essaie de justement faire se rencontrer des personnes âgées avec des personnes plus jeunes. Et justement, Mélanie Chalandon est allée rencontrer hier soir une des membres de cette association. Elle a 78 ans. Elle vit à Paris, dans le 8e arrondissement, qui est sans doute pas l'arrondissement le plus défavorisé de la capitale. Mais écoutez ce qu'elle raconte de son expérience avec sa jeune locataire.
J'habite seule, un appartement de 5 pièces. Donc, il m'était facile de mettre à disposition une chambre pour quelqu'un qui vienne et qui assure une présence. C'était à la fois un petit complément de loyer, mais qui reste modeste, enfin qui reste raisonnable. Et aussi un échange, et j'avoue que ça a été tout à fait positif dans ce sens. Je vais vous montrer la chambre et comment ça se passe. Donc, alors voilà, elle a une petite chambre. Hein. C'est un peu spartiate, mais elle l'organise comme elle veut. Et elle a sa douche. Là. Hein. Moi, ça m'apporte beaucoup parce que, et je pense que tous ceux de ma génération, ça serait la même chose, parce que je ne travaille plus, évidemment, donc je vois moins de monde, je ne vois pas les autres générations. J'ai des neveux et nièces, mais qui sont à l'autre bout de la France, et même, ce n'est pas le même type de rapport avec des liens familiaux que des liens extérieurs. Moi, je préfère qu'elles soient jeunes, parce que c'est plus intéressant, enfin bon. Il y a, comment dire, une confiance, un espoir, quelque chose de plus d'élan quand même.
Et ça vous apporte
Et ça nous tire.
Vous vouliez réagir, Pierre-Marie Chapon ?
Oui, simplement pour dire que ICAD, donc est un promoteur filial de la Caisse des dépôts, travaille avec le Paris Solidaire et a créé une offre neuve qui s'appelle Biome et justement qui permet en fait à ces personnes de partager le même logement, sauf que là, il y a deux salles de bain et donc du coup, ça fait deux portes d'entrée, ça facilite beaucoup les choses.
Ouais, c'est un programme que vous connaissez bien puisque je crois que vous êtes par ailleurs directeur de recherche.
Voilà, c'est pour ça que d'ICAD, je pensais que je pouvais pas.
Voilà.
Me...
J'avais pas tout cité parce que c'est tellement long. Merci beaucoup, en tout cas à tous les trois, d'avoir participé à cette discussion.
Merci
qui, j'espère, aussi aura donné une autre vision de ce qu'est le vieillissement. Merci Marie-Vole Niazid, Pierre-Marie Chapon et Martine Pinville. Vos commentaires, vos témoignages, n'hésitez pas, c'est sur notre site franceculture.fr, la page du Grand Moudre. La réécoute, c'est pendant 1000 jours, les podcasts pendant un an. Demain, nous vous proposerons une discussion autour de... la notion d'hystérisation de l'information. Est-ce que trop d'infos tue l'info ? Voilà, ce sera la question que nous poserons demain. Tout de suite, c'est le rendez-vous avec Laurent Goumard. Bonsoir Laurent.
Bonsoir, merci Hervé Gardette. En effet, dans quelques minutes, le rendez-vous, journal sur le fil de l'actualité culturelle, médiatique, musicale. Ce soir, une émission Bad Boy, Crime et Musique avec Checky Carillo et Jérôme Pierrat.